clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le Barca.
RMC, Football Show.
Verratti, pour 11 millions, encore une fois, c'est un joueur qui a beaucoup moins prouvé, je pense, que Belanda. Donc, on est un peu dans l'excès. Alors, Verratti n'arrive sûrement pas comme titulaire.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot.
Je vous fais le pari qui sera rarement même dans les 18.
Nicolas Villas.
Accompagné d'Ali Benarbia, de Ludovic Obraniak et d'Anthony, notre after académicien qui est avec nous ce soir. Il y aura le dernier demain et puis la réponse après, voilà, le vainqueur.
Il y en a un qui a été reporté pour lundi, je crois, non, celui du mardi, de repasser lundi, ouais.
C'est ça, Jérôme?
Pas de bêtises.
C'est pas de conneries?
Et je suis pas, Jérôme.
Jérôme est même pas là, il répond même plus. On rappelle les résultats de la 24e journée de Ligue 1 de ce samedi. Le PSG s'est imposé 1-0 face à Bordeaux. On vous rappelle que Cavani a marqué le seul but du match et qu'après avoir marqué son penalty, d'ailleurs en le frappant, il s'est blessé et il est sorti sur blessure à 3 jours du 8e de finale à la Ligue des Champions à Old Trafford. Amiens qui s'impose 1-0 face à Caen, match très important pour le maintien. Et puis Strasbourg qui s'est incliné à domicile 2-1 face à Angers. Strasbourg qui n'avait pas encore perdu en Ligue 1 dans cette année 2019, qui n'avait plus perdu depuis le 25 décembre. Depuis décembre dernier, c'était face à Reims, 2-1. Et Strasbourg donc qui perd 2-1 là face une nouvelle fois face à cette équipe d'Angers, doublé de Kanga. Perisic qui a marqué pour Strasbourg en toute fin de match à 5 minutes de la fin. Strasbourg qui n'a pas réussi à se relancer dans cette rencontre. C'était un match un peu bizarre d'ailleurs. On le regardait, là, c'était un match vraiment un peu chelou, quoi.
Pas si chelou que ça. Cette équipe d'Angers a fait vraiment ce qu'il fallait pour qu'elle récupère ses 3 points. C'est ce qu'elle faisait habituellement, qu'elle était bien, l'équipe à Stéphane Moulin. Et là, Angers, on fait à la lettre ce qu'ils savent très bien faire, c'est-à-dire bien être en place. Et dès qu'ils avaient le ballon, ils partaient à 3-4 rencontres et ils essayaient surtout de finir leurs actions. Ça a payé 2 fois. Ça aurait pu payer même 3 ou 4 fois. Et après, ils ont été
solides. Mais il n'y avait pas de rythme, c'est ça que je veux dire. Tu vois, c'était pas...
Non, le problème, c'est qu'on dirait que Strasbourg arrive un petit peu à bout de souffle.
Tu trouves, toi?
Ils avaient plus cette énergie dans les 30 derniers mètres, pouvoir faire la différence. C'est ce qui leur permettrait de revenir. Là, non, on a attendu encore à la fin. Bon, contre Bordeaux, ils marquent à la 91e. On l'a vu. Au bout, on a oublié, mais ça fait 3 points, alors qu'ils avaient été pas exceptionnels pendant les 90 minutes. Et puis là, ils se sont fait un petit peu endormir par les Angevins. Et les Angevins, par contre, dans les duels, eux, ils ont repris présence, ce que habituellement Strasbourg fait très bien, gagne ses duels physiquement. Là, ils n'ont pas pu le faire face aux Angevins.
Ludo,
je pense que les Strasbourgeois ont raté le coche en début de match. Ils ont eu quelques occasions, notamment l'occasion de Motiba face à Butel à 1 mètre du but, où ce soir il faut féliciter la prestation de Ludovic Butel qui a fait un grand match, et on peut parler aussi de la défense angevine qui a été plutôt solide. Je crois que le match tourne à ce moment-là, puisque si Strasbourg avait ouvert le score, ils sont dans une dynamique qui est intéressante. Je pense que s'ils avaient marqué à ce moment-là, ça leur aurait facilité grandement les choses. Après, ils sont tombés sur un roc. Et de plus, c'est vrai qu'au niveau de l'intensité, on les a vus meilleurs ces derniers temps. Alors peut-être que l'accumulation des matchs et de Coupe de Ligue et de Coupe de France a fait que peut-être ils avaient un peu moins de jus ce soir-là, mais ils ont quand même à chaque fois ce caractère. C'est-à-dire que même à 2-0, ils n'ont pas renoncé. Ils arrivent à revenir au score et dans les dernières minutes, bon, ils ont poussé pour égaliser. Mais bon, le public strasbourgeois les a applaudis à la sortie. C'est pour dire quand même le cœur et la générosité avec laquelle joue cette équipe.
Puis, voilà. Enfin, ça faisait un moment qu'ils perdaient pas à domicile en plus.
Honnêtement, avec la série qu'ils viennent de faire, voilà, je vois ça juste comme un accro. Je pense qu'ils vont se reprendre très rapidement.
Ça dénote pas une équipe de Strasbourg que dès qu'elle ouvre le score, on sent qu'elle se sent bien, tout va bien, elle profite, et dès qu'elle est... Par contre, elle concède ce premier but, même à la méno, mais il commence à se poser des questions.
Anthony, qu'est-ce que tu pensais de ce match-là?
Ouais, bah, je suis d'accord, le rythme était un peu bizarre. D'habitude, Strasbourg à domicile, ils emballent avec le public, ils s'enflamment assez vite, et là, ils se sont fait un peu endormir. C'était très bizarre. J'ai l'impression qu'Angers a su parfaitement comment les prendre, et ils se sont réveillés super tardivement avec ce but à la fin. C'était trop tard, mais je pense que c'est un accident de parcours, mais que... À domicile, ils vont rester aussi performants qu'avant, je pense.
En fait, on a vraiment retrouvé le fameux Angers très chiant, mais dans le bon sens du terme, ce soir, face à Strasbourg.
Ils le font très très bien, ça. Et puis quand c'est toute l'équipe qui le fait. Ces derniers temps, c'était soit la défense, soit le milieu terrain, soit l'attaque. Chacun à son tour faisait le pressing, mais jamais en même temps. Et là, par contre, c'est toute l'équipe qui jouait, qui est montée En même temps, les attaques, elles ont été suivies par le bloc. Et pareil, défensivement, pratiquement tous les duels, ils étaient tous présents. Et surtout dans les duels aériens, on sait très bien que Strasbourg, dans les 20 derniers mètres, avec Ajorque, Motiba, ils sont très très bons de la tête. Et là, par contre, ils ont eu affaire à deux costauds gaillards à Jevin.
Je crois que c'est un peu leur bête noire aussi, parce qu'il me semble avoir vu une stat comme Strasbourg a jamais battu Angers en Ligue 1. Donc c'est un peu leur chat noir.
Après, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas dû jouer contre
en
Ligue 1.
Entre cette année et l'année dernière, ouais, voilà. Mais ils n'ont jamais gagné.
On va accueillir Mathieu, supporter du Racing, qui nous a appelé au 32-16. Salut Mathieu.
Bonsoir à tous.
Bienvenue dans la
salle. Salut Mathieu.
Ça va bien. On a perdu ce soir, il n'y a rien de catastrophique. Je suis presque d'accord avec tout ce qui a été dit, sauf sur le manque sur la fatigue. En fait, Strasbourg n'a pas joué cette semaine. Il faut se rappeler que le match a été reporté dimanche dernier contre Saint-Etienne. Et moi, j'ai l'impression que ce report de match, il a plus été préjudiciable, justement. Ça a coupé un petit peu l'élan de cette équipe, puisqu'on jouait beaucoup tous les trois jours, quasiment, au mois de janvier. Et j'ai l'impression qu'en fait, le fait de pas avoir joué la semaine dernière et pas avoir eu de match cette semaine, ça a cassé, en fait, ce rythme côté Racing. Ce qui expliquerait, en fait, qu'on n'a jamais su trouver ce second souffle. Moi, je pense que ça a été négatif, en fait, d'avoir cette semaine de repos après ce match en Coupe de la Ligue contre Bordeaux.
Ouais, pour toi, ça a plus flingué la dynamique, quoi, du coup.
Ouais, j'ai vraiment l'impression, on dit souvent que l'accumulation des matchs peut être difficile. Moi, je pense que les joueurs préfèrent jouer tous les trois jours. C'est Ludo qui le mettait en avant. Et là, on s'est retrouvé dans une situation, donc on s'est qualifié contre Bordeaux en Coupe de la Ligue. On n'a pas joué le week-end qui a suivi. On n'a pas joué cette semaine en Coupe de France puisqu'on était déjà éliminé. Et je pense que justement, c'est ça peut-être qui a fait défaut, c'est que la pression indirectement qu'on avait au mois de janvier sur l'enchaînement de ces matchs, ça a généré une grosse concentration de la part des joueurs. On a pris pas mal de points, on a fait des résultats positifs puisqu'on a même réussi à se qualifier pour la finale. Et je pense qu'indirectement, tout ça est retombé et on est tombé sur une équipe d'Angers qui a parfaitement bien joué le coup. Ils ont été très efficaces, hein. Je crois qu'ils ont deux occasions, ils mettent deux buts. Ils ont été très solides défensivement avec un grand gardien et voilà, je pense que il y a pas de quoi s'inquiéter à l'heure actuelle. Et puis ça fait partie d'une saison, cette défaite, bravo à Angers qui a parfaitement joué le coup et qui va être chiant à jouer jusqu'à la fin de la saison, je pense.
Le calendrier de Strasbourg, là, il est plutôt intéressant parce qu'ils ont deux déplacements à venir à Saint-Etienne et à Caen. Alors Caen, on le sait, qui a perdu ce soir face à Amiens, qui est pas bien du tout. Et ensuite, le prochain match à domicile, il y en aura deux d'ailleurs, ce sera face à Lille et face à Nice aussi. Donc c'est vrai que le calendrier, là, les trois prochains matchs, un match face au LOSC.
Ouais. Déplacement à Saint-Etienne, pas évident. Et après, à domicile, tu reçois Lille, qui est super top et en plus qui va se régaler sur les contres. Et Nice, qui, elle, ne prend pas beaucoup de buts. En dehors de ce fameux 4-0, mais en général, c'est une équipe qui défend très très bien et qui va profiter de la moindre erreur de Strasbourg. Donc, calendrier, il faut faire attention. Et quand, même si c'est catastrophique, ils jouent le maintien, ils vont vouloir tout donner.
Après, c'est plutôt intéressant l'analyse que tu fais justement sur l'espèce de décompression. Moi, mon sentiment, quand je te parlais justement de jouer les matchs tous les trois jours, c'est pour des équipes qui ont l'habitude de ce rythme-là. La Strasbourg, ils ont fait ce rythme-là sur un mois.
C'est souffle.
Donc, je pense moi que ça, justement, cette semaine-là aurait dû
servir à décompresser.
Bah oui, mais finalement, tu vois que je les ai sentis un peu fatigués, comme si.
Ouais.
Dis-moi.
Le problème qu'on a en ce moment, le fait de jouer en 3-5-2, t'as trois défenseurs centraux qui sont alignés, t'as le jeu qui penche clairement sur le côté droit, Kenny Lala.
Ça, c'est sûr.
Et à l'heure actuelle, on a des blessés. On a Carole qui s'est reflingué.
Martin, qui est pas là.
Donc en fait, indirectement, quand tu regardes le banc de touche, Thierry Loré, il a deux solutions. Soit il applique cette équipe-là, parce qu'il a pas forcément, à part Abdallah Ndour qui peut mettre à gauche à la base d'Anthony Cassi, il est un petit peu coincé, il est obligé soit de maintenir son dispositif, soit éventuellement de changer de dispositif. Au vu de la dynamique en cours, ça paraissait peut-être risqué pour Thierry Loré de changer de dispositif sur quelque chose qui marche. Lui, je pense que ce qu'il veut, c'est rapidement chercher encore 3 ou 4 points pour définitivement entériner ce maintien. Et ce soir, il s'est retrouvé un petit peu obligé d'aligner cette équipe-là. Par contre, là où je te rejoins, c'est vrai que si on avait un peu plus de profondeur, peut-être un peu moins de blessures, notamment nos latéraux, puisque on a beaucoup de joueurs à vocation défensive sur le terrain aligné ce soir, peut-être qu'on aurait pu aligner une équipe un petit peu différente.
Ouais, ce qui me surprend, c'est aussi la titularisation de Motiba. On sait qu'Ajorque a pris une place quand même prépondérante. Il est quasiment indiscutable sur les dernières semaines, puisqu'il a été énorme, autant sur le plan comptable que sur le plan de l'utilisation, qu'elle soit offensive ou sa capacité à pouvoir presser en premier rideau, donc il fait un énorme travail. J'aurais plus vu commencer Nuno Da Costa ce soir, tu vois, pour donner un peu plus de profondeur. J'ai trouvé que ça manquait un peu de dynamisme, et justement Da Costa, il a justement ce petit truc qui fait que sa vélocité, sa rapidité fait que des fois ça déclenche des choses qui peuvent enquiller et peut y jouer là-dessus. Et ce soir, j'ai trouvé que c'était trop stéréotypé, moins de mouvements que d'habitude, et comme tu le dis, le jeu qui penche beaucoup à droite. Donc quand t'es entraîneur, tu le constates. Et je crois qu'Angers, j'ai vu certaines séquences où justement ils avaient renforcé un peu leur milieu côté gauche pour anticiper un peu les montées de Lala. Et voilà, quand tu sens que le système est un peu grippé comme ça, ça se passe un peu moins bien.
Tiens, Mathieu, une question quand même, parce que quand on voit le classement, c'est que Strasbourg est 7e, 35 points, bah finalement ils sont qu'à 2 points de la 4e place, par exemple, occupée par Saint-Etienne aujourd'hui. Est-ce que vous, supporter du Racing, est-ce que toi, supporter de Strasbourg, tu te mets à rêver d'Europe?
Moi, je vais parler seulement pour moi, Nico.
Ouais, pour toi.
On est, si tu veux, on vit encore sur un traumatisme. Si tu te souviens, dans les statistiques, on a le triste record de 11 défaites en Ligue 1, alors qu'on était quasiment maintenu à l'époque.
Je croyais que t'allais me parler de l'époque où vous étiez en CFA, qui était il y a 5 ans même. Donc.
Si, j'allais y venir. Mais si tu veux, on va être prudent. Pour moi, le maintien, il est quasiment acquis. Je pense qu'il faudra entre 35 et 37 points. Ça devrait passer cette année, ça me semble. Enfin, on sait jamais, hein, comment vont réagir les équipes de derrière. Mais pour moi, là, clairement, l'objectif, c'est de gagner la Coupe de la Ligue cette année, d'essayer de finir le mieux possible dans cette première partie de tableau. Je pense que la 4e place, 5e place, ça va être limite. La 5e place, vraiment, si tout se passe bien, moi, je nous vois 7e cette saison. Maintenant, s'il y a un match à pas louper,
c'est la Coupe de la Ligue, la finale.
C'est la Coupe de la Ligue. Je veux dire, là, pour ce club, tu parles de ça, Nico, on était en CFA il y a quelques années.
Je sais.
Moi, je pense qu'on serait pas plus ridicule que certains clubs français, sans vouloir faire offense à certains autres supporters, d'aller jouer cette Coupe d'Europe. On a une méno qui est pleine depuis le début de la saison. C'est qui chez Fernet quasiment.
J'ai envie de te dire depuis le CFA national même, donc c'est dire.
Ouais, c'est ça, et je pense que ce serait une récompense méritée au vu du travail qui a été fait par les dirigeants, par l'entraîneur, par les joueurs, par l'investissement de tout le monde, du public. Donc voilà, pour récompenser cette saison qui est fantastique, hein, clairement les on va voir comment ça se passe jusqu'à la fin, mais quand tu prends depuis le début de saison les résultats qu'on a, et cette septième place à l'heure actuelle n'est pas volée. Je pense qu'il faut tout miser maintenant sur cette Coupe de la Ligue le 30 mars et essayer de pas faire de catastrophes en championnat, prendre un maximum de points quand on peut les prendre, et puis gérer la fin de saison. Et une fois que cette barre symbolique de 40 points sera atteinte, essayer de se lâcher puis de voir ce qu'on peut récupérer. Ça dépendra aussi des résultats des gens qui sont devant, Saint-Etienne, Marseille, Montpellier. Ça dépendra aussi de ce que feront ces clubs-là. Et nous, le but sera peut-être...
Et ceux qui sont derrière aussi, hein, parce que tu sais, Reims, Nice, Rennes, c'est pas loin, hein, non plus. Hein.
Ouais, Reims est solide, je les vois, honnêtement, je les vois pas terminer, je les vois pas sur le long terme aller chercher une 5e place, par exemple. Ouais. Peut-être que je peux me tromper, hein, je serais très content pour ce club-là. Je me méfierais plus de Rennes, par exemple.
Ouais.
Qui là est sur une nouvelle dynamique où ça repart bien.
Voilà. Alors juste, moi si je te pose la question sur l'Europe, c'est parce que bah encore une fois elle a été posée à Thierry Loret en conf d'après match. Alors lui, bon, il explique qu'il a rien à reprocher à ses joueurs, que finalement ils ont raté le coche en début de match, voilà, on a les occasions, on les met pas, on se fait punir. Et puis il a dit c'est vous qui nous bourrez le mou avec vos histoires d'Europe. Nous on en est loin, on n'y pense pas, on essaie de progresser, de jouer du mieux possible. Voilà ce qu'a répondu Loret. Ouais. On est quand même à la 24e journée, t'es pas loin. Et puis surtout, comme tu dis, si ton objectif c'est de gagner la finale de la Coupe de la Ligue, bah si tu la gagnes, tu vas en Europe, hein, mon pote. Hein. Donc
Thierry Loret, j'ai beaucoup de respect pour le travail qu'il fait. C'est un super entraîneur. Tactiquement, il a mis en place quelque chose qui est cohérent. Je pense que, à part aujourd'hui où la deuxième mi-temps était un petit peu soporifique, généralement quand on voit les matchs du Racing, on s'ennuie pas. Ça joue, ça essaie de marquer des buts. Maintenant, il est très langue de bois en conférence de presse. Parfois, moi-même.
Ah bah il envoie aussi.
Dernièrement, il a pas été langue de bois.
Quand il est caliente, au contraire, il envoie le titi.
Bah il envoie. Et je vous dirais, même moi qui suis supporter, qui adore son travail tactique. Des fois, il m'agace. Ces derniers temps, il supporte aucune question des journalistes. Faut pas lui parler d'Europe, faut pas lui parler de blessures, faut pas lui parler de...
Ouais, mais il est comme ça, Loret. Il a toujours été comme ça, d'ailleurs.
À un moment donné, tu peux pas être en finale de Coupe de la Ligue, être 5e ou 6e, 7e du championnat, et dire, non, on s'en fout, on veut pas l'Europe. À un moment donné, faut être cohérent, les joueurs. Quand tu joues un championnat ou une compétition, t'as envie de faire le mieux possible. Quand t'es classé, maintenant, on n'est pas à la 12e journée, là. Quand t'es dans notre position à l'heure actuelle, tu peux quand même te prendre à rêver de viser plus haut. Oui, certes, l'objectif est le maintien sur le papier, mais quand tu te retrouves dans cette position-là, que t'es à 90 minutes d'un match pour aller jouer à la Coupe d'Europe, à un moment donné, tu peux quand même te lâcher et dire oui, on va tout faire pour essayer d'aller la chercher. Et puis si tu vas pas la chercher, si tu perds, ben c'est pas grave. À la base, c'était pas tes objectifs. Mais à un moment donné, t'as quand même le droit d'avoir un petit peu d'ambition et de l'assumer. Et pas toujours te cacher derrière.
Et bah c'est dit en tout cas. Merci Mathieu d'avoir été avec nous.
Eh ben merci à vous.
Bonne
les gars.
Soirée, à bientôt Mathieu. Mathieu passionné par son Racing.
Le problème du Racing Thierry Loret, c'est que quand cette équipe, on n'en parle pas du tout. On dit oui, ben vous parlez toujours de Marseille, du PSG. Et quand on en parle trop souvent, ben ils sont pas contents non plus.
Mais non, après faut pas caricaturer. Mais il a toujours eu ce côté-là, Thierry Loret.
C'est ce que
quand
je veux.
Quand il était au Gazélec, c'était comme
c'est
ça.
Ce que je veux enfin, expliquer, voilà, Nico, dans voilà, le sens
c'est son caractère, quoi.
Tu dis on parle pas du tout assez de mon équipe, et là tu vas dire. Non,
moi je vais dire un truc. Au moins avec lui, on s'emmerde pas. C'est-à-dire ces équipes l'année dernière, ils prenaient beaucoup de buts, mais ils en marquaient aussi pas mal. Mm-hmm. En conf de presse, bah tu t'emmerdes pas non plus. Alors on est d'accord ou pas, hein, d'ailleurs. Hein. Oui, moi je questionne pas forcément tout toutes ces opinions, mais au moins on s'emmerde pas avec Loret. Voilà, il apporte de la couleur, ce mec. Voilà, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, et puis voilà, il apporte ça. Et on va accueillir Valentin, supporter d'Angers. Alors d'Angers quand même, qui s'impose 2-1 à Strasbourg ce soir. Salut Valentin.
Messieurs, bonsoir.
Salut Valentin. Ça va, Valentin?
Ouais, là, ça va très bien. Ça va très très bien. La victoire nous fait du bien. On avait déjà gagné la semaine dernière contre Dijon, donc on s'est éloigné un petit peu de la zone de relégation. Là, on s'en éloigne encore un petit peu plus. Donc l'objectif qui est le même pour nous, qui reste le maintien, commence à être très bon pour nous, sachant que la fin de saison va être compliquée. On va jouer 4 équipes qui sur les 4 derniers matchs qui joueront l'Europe. Donc ça c'est peut-être 4 matchs où on pourra pas ou peu de points, donc vaut mieux être maintenu le plus tôt possible. Comparé aux autres années où habituellement à ce moment-là de la saison on était plus dans la zone rouge que dans le milieu de tableau. Là cette année on est dans le milieu de tableau, faut voir le côté positif. Là cette saison, oui, il y a du mieux par rapport aux autres années, et je suis plus confiant par rapport au maintien que l'année dernière par exemple, au même moment.
Tiens, dis-moi Valentin, question qui n'a rien à voir, est-ce qu'un mec comme Christophe Pélissier, l'entraîneur d'Amiens, il te fait fantasmer?
Oui, j'aime bien le jeu qu'il propose avec Amiens, parce que honnêtement l'année dernière quand Amiens est monté en Ligue 1, j'y croyais pas du tout. Je pensais vraiment qu'Amiens ça allait faire comme ce que font certaines équipes qui montent et redescendent tout de suite, sans vouloir me faire d'ennemis comme l'équipe par exemple comme 3, où c'est souvent le cas, où c'est l'équipe qui fait yo-yo, qui monte et qui redescend. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'ils proposent, le jeu qu'ils ont proposé l'année dernière, et à ce qu'ils se maintiennent.
Eh bah, ben tu sais. Donc, quoi Valentin, devine qui est en direct avec nous dans l'after en ce moment même. Christophe Pélissier, l'entraîneur d'Amiens. Eh ouais, mon pote, si tu veux le débaucher, c'est le moment. Bouge pas, bonsoir, Valentin, salut. Eh Christophe, c'était pas du tout prémédité. Voilà, si tu veux, on t'a trouvé du taf à Angers déjà.
Non, mais Stéphane, il travaillait très bien. Alors,
Christophe Pélissier, entraîneur d'Amiens, qui s'est imposé 1-0 face à Caen ce soir. Bah bravo, Christophe, celle-là, elle fait du bien. Hein.
Ouais, elle fait du bien parce qu'on a passé un mois de janvier très compliqué en jouant Paris, Lyon, Lille et Rennes. Sur ces 4 matchs, même si le contenu avait été intéressant, mais malheureusement pour nous, la marche avait été chaque fois trop haute et on avait pris 0 point. Donc ce soir, face à un concurrent direct, était important de casser cette spirale et de gagner. On savait que ça allait pas être un match extraordinaire, mais il fallait gagner, on l'a fait.
Alors c'est vrai que le calendrier, alors c'est la première victoire d'Amiens en Ligue 1 dans cette année 2019, tu viens de le dire, il y a eu le PSG, il y a eu Lille, il y a eu Lyon 2 fois également avec la Coupe de France, il y a eu Rennes, et le prochain match, Christophe, pour Amiens, bah c'est à Marseille justement.
Ouais, on savait qu'on avait nos 6 premiers matchs après la trêve qui étaient très très compliqués, et ils l'ont été. Notre seule fenêtre de tir peut-être était le match de ce soir. On a su prendre les 3 points au forceps, mais ces 3 points qui sont à la fois important sur le plan comptable, mais surtout important sur le plan psychologique.
Et entre nous, Christophe, ils sont prenables les Marseillais là en ce moment, non?
Non, mais au contraire, ça fait 2 matchs maintenant qui sont et qui regagnent, donc ça va être compliqué, mais bon, c'est des matchs bonus pour nous, donc il faudra qu'on ait la même attitude, le même jeu qu'on a pu faire contre Lyon et Rennes, où malheureusement on perd chaque fois 1-0, mais notamment à Rennes on aurait pu peut-être prendre un point, donc on va aller là-bas avec nos armes, en essayant de mettre un peu Marseille à mal.
Christophe Pélissier, l'entraîneur d'Amiens, est en direct avec nous dans l'after. Et Ali Benarbia, une question pour toi, Christophe.
Bonsoir, Christophe.
Bonsoir, Ali.
On en parlait toute la saison dernière, où la saison dernière, ça s'est très bien passé. Et je te disais que les premières années de promu sont beaucoup plus faciles que les deuxièmes années. Ça se confirme cette année. Qu'est-ce que tu peux nous dire de la différence pour manager, pour toi, la saison dernière et cette année?
Et... pas trop sur une différence de pour manager, c'est surtout une différence d'effectifs. Mmh. J'ai perdu pratiquement tous mes cadres offensifs qui sont partis, mes quatre joueurs qui sont partis, enfin trois. Moussa, au mois de septembre, Zungu, qui était mon régulateur au milieu, se fait décroiser le 2 septembre à Saint-Etienne. Konaté se fait une désinsertion au mois d'octobre de l'adducteur. Mmh. Et on a joué tout le mois de janvier avec Godos qui était parti
à la Coupe d'Asie.
J'ai joué sur le mois de janvier avec dans l'effectif deux attaquants et deux attaquants de National 3. Donc ceci explique cela. Ce soir, je récupérais Guirassy, donc qu'on a fait signer de Cologne, mais qui a pas trop joué pendant 6 mois. Je récupérais Konaté qui a pas joué de 3 mois. Godos qui est arrivé de Coupe d'Asie, mais j'avais pris le choix ce soir pour envoyer un signal à mes joueurs de les aligner tous d'entrée. J'avais quatre offensives d'entrée sur le terrain, j'en avais qu'un sur le banc. Voilà, le problème pour moi, il n'est pas sur le fait que ça soit plus dur ou quoi de manager, c'est qu'on n'a pas pu ou pas su garder des éléments importants qui avaient fait la réussite du club l'année dernière. Et donc, à partir de là, ça, c'est un peu plus compliqué.
Mais c'est quelque chose que toi, tu regrettes? Enfin, tu as essayé d'avoir des garanties auprès de ta direction ou tu savais que ça allait se passer comme ça de toute façon?
Non, j'avais des garanties sur des profils offensifs et après qu'on n'a pas pu faire signer, mais c'est une chose. Après, les deux blessures importantes sur deux cadres nous ont aussi handicapés. Je pensais qu'on aurait pu à cette trêve récupérer deux ou trois offensifs. C'était la discussion que j'avais avec les dirigeants. Malheureusement pour nous, on en a récupéré qu'un. Et donc ça va être compliqué jusqu'à la fin de saison parce que sur l'animation offensive on est inférieur à ce qu'on avait l'année dernière, donc à nous de travailler encore plus en mettant des choses différentes sur le terrain, une animation. Aujourd'hui on a pour la première fois joué en 4-4-2 et voilà, donc c'est peut-être une chose à avoir aussi sur les prochains matchs.
Christophe Pelissier, l'entraîneur d'Amiens, nous fait le plaisir d'être avec nous dans l'after, et Ludovic Obraniak a une question pour lui.
Non, mais tu m'as coupé un peu l'herbe. Mais deux secondes, tu m'as coupé un peu l'herbe sous le pied, Christophe. Alors bonsoir. Et tu vas me faire, des leçons d'éducation.
Oui, tout à
toi.
Fait. Exactement. Ah, bah,
d'accord.
La bien séance.
Ah, va te friser les moustaches, toi. Et, okay. Pardon. Non, je voulais. Tu m'as coupé l'herbe sous le pied parce que justement, je par rapport au match de Rennes où j'avais l'occasion de vous regarder, il y a eu un changement notable. Notamment, c'est rare pour le souligner dans une période un peu difficile puisque vous avez enchaîné plusieurs défaites. Ou dans ces cas-là, on a l'esprit plutôt de sécuriser la maison en se disant bon voilà, on va essayer de pas prendre de but et jouer en contre. Qu'est-ce qui toi justement te pousse à lancer? Bon, tu nous as donné une partie de la réponse, mais qu'est-ce qui te pousse à jouer justement l'offensive sur ce match-là? Tu as senti que c'était le moment, ou c'est par rapport à l'adversaire, ou c'était juste simplement pour redonner de la confiance à ta ligne d'attaque?
Ouais, c'était surtout pour envoyer un signal à mon vestiaire. Dès lundi matin, parce que c'était un groupe quand même qui, quand on sort de 4 défaites, et même si c'est des gros, même si on avait perdu Lyon, même si on avait perdu Rennes, mais on sentait quand même, on avait un sentiment d'impuissance sur le plan offensif. Donc tout le monde travaillait bien au niveau de l'organisation défensive, mais chaque fois on perdait 1-0. Et lundi matin, voilà, je leur ai fait comprendre, ils ont compris vite sur les séances d'entraînement qu'on allait jouer avec une dynamique différente, que nous, le staff, on allait trouver des solutions, ou du moins essayer à trouver pour casser cette barrière psychologique qui faisait que, ben voilà, dans les 30 derniers mètres, on était un peu en dedans. C'est pas que ce soir on ait fait un grand match par rapport à ça, mais on a quand même un peu plus pesé, et donc c'était l'idée que j'avais avec le staff, voilà, d'envoyer un petit peu de positif, parce que je sentais que les joueurs étaient en train de se dire ouais, c'est pas mal ce qu'on fait dans l'organisation et tout ça, mais par contre on n'y arrive pas devant, et je voulais pas que ça s'insinue dans leur tête.
Christophe Pelissier en direct avec nous dans l'after, et Anthony, notre after académicien, a une dernière question pour toi, Christophe. Après, promis, on te libère, aller faire la teuf en boîte avec un joueur comme la
Oui, bonsoir coach.
Il a pas démenti. Hein.
Bonsoir. C'est vrai que vous étiez sur une série très compliquée. Là, vous allez être dans le dur jusqu'à la fin. Il va falloir batailler à chaque match. Et moi, en tant que joueur amateur, ce qui m'intéressait de vous demander, c'est quel est le discours qu'on peut avoir avec ces joueurs pour s'assurer qu'à chaque match, ils remettent le bleu de chauffe, et qu'à chaque match, vous jouez un peu votre vie. Quel discours vous leur tenez à vos joueurs?
Ben, ça, c'est dans l'ADN des équipes qui jouent le maintien. Je crois que si on n'a pas ça, c'est très compliqué. Après, j'essaye de pas trop leur en parler, au contraire. Et notamment sur un match comme ce soir, où on sait que l'environnement extérieur, beaucoup de choses parlent de l'enjeu du match. Et on a essayé toute la semaine de travailler sur notre animation offensive, de travailler sur le jeu, et aujourd'hui, pareil, sur la causerie, parce que c'était pas la peine de leur dire que le match était important, que le match allait être un combat, on le savait, entre deux équipes qui jouent le maintien, et il fallait les amener sur un autre projet, sur autre chose. Donc, pour que ça dure sur une saison, je pense qu'au contraire, il faut pas trop avoir que ce mot de combat et tout ça, parce qu'on sait que ça doit faire partie de nos gènes en début de saison. Après, au contraire, il faut les amener sur un projet où c'est qu'il y a un peu de... que les joueurs prennent autre chose comme plaisir que le combat, même si des fois, comme ce soir, gagner 1-0 avec beaucoup de solidarité, c'est aussi beaucoup de plaisir. Et sur la durée, avoir un projet sur le jeu qui puisse aussi donner plaisir aux joueurs.
Merci Christophe d'avoir été avec nous.
Juste une dernière question, Christophe, pour toi. Est-ce que le fait de ne pas avoir réussi à relancer Ganso est une déception personnelle pour toi?
C'est vrai que c'était un gros coup médiatique, c'était un gros coup tout court d'ailleurs, Ganso, à la base, Christophe.
Ouais, c'est... De toute façon, quand un joueur... moi, je pars du principe que quand un joueur ne réussit pas, ben, le coach est fautif aussi. Après, on peut raconter ce qu'on veut, mais oui, avec Ganso, je suis pas arrivé à le faire rentrer dans le projet. Voilà, je veux rien avoir par rapport à sa qualité de joueur, bien au contraire, mais... Ici, on joue le maintien, Amiens joue le maintien, donc il y a une base de projet sur l'ADN, tout ça qu'il faut, on peut pas faire autrement, et je suis pas arrivé à le faire rentrer dans ce projet-là comme je le souhaitais, donc voilà, c'est toujours une petite déception.
Christophe, merci beaucoup d'avoir été avec Christophe. Nous. Bravo encore pour la victoire d'Amiens ce soir, 5-1-0.
Merci.
Bonne soirée, à bientôt Christophe.
Bonne soirée.
Salut, ciao Christophe. Tiens, Valentin, reste avec nous, on revient dans quelques instants. On doit faire une petite pause, toi supporter d'Angers qui a battu Strasbourg 2-1 ce soir. On revient dans quelques instants avec Ali, avec Ludo et avec Anthony, à tout de suite.
RMC Football Show, l'After Foot, Nicolas Villas.
Accompagné de Ludovic Obraniak, d'Anne Benarbia et d'Anthony, notre after académicien. Tiens, on va terminer avec Valentin. On a été coupé, Valentin, supporter d'Angers qui s'est imposé 2-1 à Strasbourg ce soir. Valentin, pardon, on était avec Christophe Pélissier. On a essayé de t'arranger le coup.
Aucun problème, les gars, aucun problème, je comprends.
Bon, t'es content de toute façon avec Stéphane Moulin.
Ouais, très content. Et puis Stéphane Moulin, le coach en activité, qui est depuis le plus longtemps en activité dans les 5 grands championnats, hein, depuis qu'Arsène Wenger est parti. Donc c'est quand même une fierté. Ouais. Ça prouve aussi qu'il y a un très bon travail entre lui et le président.
Olivier Piqueux, sinon, qui fait un drôle de travail aussi.
Ouais, le directeur sportif.
Ouais, Olivier Piqueux qui fait un super travail, qui arrive à trouver toujours un ou deux bons coups lors des mercato. Là, ce soir, moi, je tiens à préciser une petite chose. C'est la semaine dernière, on gagne contre Dijon, et à la fin du match, Wilfried Kanga, qui avait raté vraiment l'immanquable. Et là, ce soir, le stade
de doublé.
Confiance. Il met un doublé ce soir, et je pense que ça va vraiment le libérer, parce que c'est vrai que c'est ce que disait le coach en conférence de presse. À l'entraînement, il est très bon, il est précis, il marque des buts, et je pense que ça, comme pour tout attaquant, je pense que ça trotte dans la tête au bout d'un moment quand on marque pas. Et la semaine dernière, il rate ça, mais il avait aussi la confiance du public, parce que à la fin du match, c'est lui qui monte et qui fait le clapping dans le club. Donc ça, c'est super important. Ludovic Butel qui ce soir est excellent, et ça fait deux matchs, parce que depuis le début de saison, on est tous à Angers très très fans de Sherendoy, et depuis le début de saison, c'était très 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 compliqué. On n'avait pas l'impression de retrouver le Sherendoy qu'on avait, à part au niveau des duels où ça c'est sa grande force, mais c'était très compliqué. Et là, ça fait deux matchs de suite où il délivre donc une passe décisive. La semaine dernière, c'est lui qui fait le centre sur le but de Bauken, et là c'est lui encore qui donne un très bon ballon pour le deuxième but de Kanga. Donc là, on retrouve vraiment un bon Sherendoy. Là, ça fait plaisir de retrouver Sherendoy qu'on connaît.
Mais de toute façon, quand t'as ton gardien qui est fort et qui fait des bons arrêts, et que t'as ton attaquant qui marque des buts, c'est pas compliqué, hein. Automatiquement, tu gagnes des matchs et tu fais des points.
Oui,
ça clignote.
Alors que pourtant, au début de...
Non, en fait, j'explique parce que les gens comprennent pas. Attends, juste parce que tout à l'heure j'ai dit à Ali et à Ludo, puis tout à l'heure vous bouffez le chrono quand la cloque, l'horloge m'a clignoté, on devrait déjà être parti. Oui. C'est juste que mais c'est juste que là ils l'ont pas mise, là, c'est tout. Voilà.
Bah, alors, ils sont pas fait
leur. Ouais, excuse-nous. Non, mais il faut expliquer. Tu dis ça clignote. Non,
parce que lui, il ne le voit pas lui.
Pardon, Valentin. C'est n'importe quoi ce soir.
Surtout qu'en plus, ce soir, on avait quand même trois absents de marque de notre côté. On avait donc Flavien Tay, qui est notre meilleur passeur, qui n'était pas là. Rien Adélaïde, qui était absent. Et cette année, je pense qu'il y a un joueur aussi, on ne parle pas beaucoup à Angers, c'est Pierrick Capel, qui est vraiment... Moi, je l'appelle le couteau suisse de l'équipe, parce qu'il peut jouer partout. Il peut vraiment jouer partout, il peut être ailier, il peut être milieu relayeur. Cette année, il est défenseur latéral, et il est très très bon. Et Stéphane Moulin a retrouvé, je pense, un schéma qu'il apprécie particulièrement. C'est sa fameuse défense à trois centraux, avec Pavlovic, qui devient l'un des grands chouchous d'Angers, avec le mouvement du pavlovisme qui se met de plus en plus en marche. Et là, on a retrouvé donc Captain Isma, et c'est vrai qu'il a été ça faisait quelques matchs qu'il n'était pas là, et ça fait du bien de retrouver cette solidité, même si c'est dommage, un petit errement défensif qui fait qu'on prend un but à la 87e et fin du match, on est des moi devant ma télé, je commençais à un petit peu paniquer parce que dans un stade comme une équipe comme Strasbourg, qui est un stade qui a guichet fermé et un public qui pousse, j'étais pas serein devant ma télé.
Valentin, merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup, messieurs. Merci,
bonne soirée, Valentin. Salut. À très bientôt. On rappelle, victoire d'Angers 2-1 à Strasbourg ce soir. On va y aller.
Très important.
Ouais, ça ne clignote pas encore.
Angers, Amiens.
Tiens, je vous donne une petite info également qui concerne Edinson Cavani. On rappelle que le PSG, dans trois jours, joue face à Manchester United en Ligue des Champions à Old Trafford. Que Cavani, qui a marqué le penalty, est sorti sur blessure. Info qu'on vous donne là. Le staff médical suspecte une contracture à la suite de ce penalty. Alors, il est parti passer des examens complémentaires accompagné d'un membre du staff. Alors, il est sorti par précaution. Il n'y avait pas de douleur insupportable pour l'Uruguayen. Certaines sources parlent d'une petite blessure sans gravité, mais pas évidente à soigner dans un délai aussi court. C'est le problème donc concernant Edinson Cavani, très incertain, est très incertain donc pour le 8e de finale de Ligue des Champions. Info de Saber Desfarges, c'est marqué sur une feuille, c'est pas faux, c'est prouvé,
merci,
c'est là.
Merci Saber.
Merci beaucoup, bravo pour la qualité de tes informations Saber. Fred Hermel est avec nous, car il y avait cet après-midi en Espagne un derby, un match de taré entre le Real Madrid et l'Atlético. C'était d'ailleurs Wanda Metropolitano, et Fred Hermel y était bien entendu. Buenas noches, señor Hermel.
Hola chicos.
Qué tal, hombre.
Ah, c'était impressionnant.
Ah si.
Bah, c'est-à-dire que j'ai encore appris une chose, c'est qu'il faut jamais parier, faut jamais enterrer le Real. Voilà,
parce qu'il revient à 5 points du Barça, qui jouera demain face à Bilbao.
Mais au-delà de ça, qui est quand même pas une mauvaise affaire qu'a fait le Real Madrid, puisque Solari prend l'équipe le 29 octobre, 9e au classement, et là ils sont 2e. À 5 points du Barça, bon, le Barça qui a un match en retard, mais aller à Bilbao c'est jamais facile, surtout que Messi est pas en grande forme, et que c'est pas sûr qu'il joue demain, c'est Valverde qui l'a dit, voilà. Moi ce qui m'impressionne, c'est la manière dont le Real Madrid a conquis le Wanda Metropolitano, mais c'est-à-dire que Simeone à la fin a dit, bah voilà, il n'y a pas d'excuses, ils ont été plus forts que nous, quoi. Ils ont été plus efficaces, plus puissants, plus tout, voilà, donc... Et en fait, il y a que Griezmann qui, avec son génie du côté de l'Atlético, a pu marquer un but dans un face-à-face avec Courtois et en lui passant la balle sous les jambes. Mais le reste, un match totalement méprisé par le Real Madrid, maîtrisé par le Real Madrid. C'est-à-dire que là, la Ligue des Champions pour eux, c'est mercredi soir.
Eh ben, Amsterdam en face à l'Ajax.
Là, sincèrement, je ne peux pas vous dire aujourd'hui ce que je disais il y a un mois, qu'il est impossible que le Real Madrid gagne une 4e Ligue des Champions de suite. Là, après ce que j'ai vu aujourd'hui, je peux peut-être pas tenir le même discours qu'il y a un mois. C'est hallucinant.
Quoi, tu les reconnais plus du tout, c'est ça? Enfin, dans le bon sens du terme.
C'est-à-dire que là, c'est une équipe qui peut battre n'importe qui dans le monde, quoi. C'est-à-dire quand vous avez un Courtois à ce niveau-là.
Non, mais déjà, Casemiro est de retour, hein.
Bah, Casemiro, il met un but, mais surtout dans le jeu, il est super. Quand vous avez un Ramos qui a peut-être jamais été aussi fort depuis 3-4 ans. Qui claque un péno, mais là il joue pas au con avec la Panenka. Hein. Et Courtois après que j'ai rencontré, il nous a dit on a travaillé avec Ramos, etc. On savait très bien que face à Oblak, il fallait la placer le plus proche possible du poteau, quoi. Voilà, tout ça. Les gens ne savent pas, en fait, que ça bosse beaucoup, les clubs de foot de haut niveau. Il y a très peu de choses qui sont dues au hasard. Donc, quand je vois, par exemple, Modric qui a de nouveau de l'air dans ses poumons et qui a retrouvé une vraie clairvoyance, quand je vois le travail que fait un Lucas Vasquez, mais qui est hallucinant quand je vois.
On rappelle que l'attaque c'était Vasquez, Vinicius et Benzema.
Et Vinicius provoque un penalty. Le mec il a 18 ans.
Ah oui, il est bon.
Il provoque un penalty.
Quel bon ce Vinicius.
Mais alors après dans le dernier geste il a encore beaucoup de choses à apprendre. Heureusement c'est un junior.
Il est à polir encore.
Il y a beaucoup de déchets.
C'est prometteur quand même.
Mais c'est à dire que dans les défenses un mec comme ça, là il a provoqué un penalty quoi. Voilà. Donc ce Real Madrid, je reconnais pas le Real d'il y a un mois quoi.
Tiens, Fredo, juste, on va écouter Thibaut Courtois parce que tu l'as rencontré après le match, le gardien belge du Real Madrid. Bah, il le dit, lui d'ailleurs. Le Real Madrid va mieux, justement. On l'écoute, Thibaut Courtois.
On se sent bien, on joue bien. Et aujourd'hui, bon, tu sais que c'est un derby, tu sais que Atlético joue bien à la maison, qu'il ne casse pas beaucoup de buts, que quoi, c'est toujours un match difficile de gagner. Et si tu gagnes 1-3 avec un bon jeu, avec des beaux buts, ben, c'est fantastique. On est content qu'on a sauté maintenant en deuxième place, on a 5 points de Barça. On dépend toujours de gagner notre match et voir ce que les autres font. Mais c'est bien toujours de mettre la pression de derrière et se battre jusqu'au final.
Alors, on rappelle que le Real passe du coup devant l'Atlético au classement. Ouais. Cela dit, alors, le Real va mieux, Fredo. On a beaucoup parlé de l'Atlético depuis le début de la saison. L'Atlético qui aura son 8e de finale de Ligue des Champions face à la Juve quand même. Gros morceau pour les Colchoneros. Ah, oui. On a l'impression que ça va pas très bien en revanche pour eux là depuis quelques temps. Là.
C'est
dans le contenu et tout, c'est pas top. Quoi,
ouais, enfin, mais c'est-à-dire aujourd'hui, je pense que n'importe qui, le Real était tellement concentré, c'est-à-dire que ils ont tellement de bons joueurs le Real Madrid que quand ces mecs-là sont bien physiquement, et là, le gros changement, c'est que Pintus qui est employé, qui est en CDI, c'est pour ça que le Real a pu le shipper à Lyon. Quand Lopetegui était là, Pintus était un troisième zone, quoi. Voilà, il faisait ce qu'on lui disait, quoi. Aujourd'hui, avec Solari, il est de nouveau le préparateur physique en chef, c'est lui qui décide de la préparation physique. Et là, ça se sent. Je veux dire, Zidane n'était pas allé chercher ce mec-là par hasard. Ça se sent, ils sont bien physiquement, et en plus, comme ils sont hyper concentrés, et qu'ils attaquent les matchs dès le début, bah, c'est vraiment dur de les bouger, quoi. Donc, sincèrement, après, je sais pas comment ça rendait à la télé, mais je peux vous dire qu'au stade, on sentait un Real qui dominait, et qui dominait son sujet. L'Atlético, j'ai un peu de mal à les juger aujourd'hui par rapport à la qualité de jeu du Real. Donc, ils perdent la semaine dernière au Betis. Bon, ils méritaient le match nul.
Au contraire, Fredo, c'est une équipe qui est censée être de leur niveau. Enfin, ils doivent faire Real, quoi.
Bah oui. Ouais, mais sauf que le Real est vraiment très très fort aujourd'hui, quoi. Voilà. Donc l'Atlético une petite baisse, le Real beaucoup mieux. Donc la victoire est tout à fait logique, quoi. Mais il y a que vraiment Griezmann qui était et Lucas Hernandez qui ont été vraiment à leur niveau. Le reste, ça n'a pas été extraordinaire, mais surtout parce que tactiquement, le Real a été supérieur, c'est évident, quoi.
Anthony.
Oui, Fred, ouais, moi effectivement comme tu l'as dit, ils sont comportés en patron et même si l'Atlético ils ont essayé un peu d'emballer le truc dans les 10 premières minutes, ils ont été éteints par le but un peu de Casemiro. Et je voulais te demander, il y a un truc, j'ai pas été hyper convaincu par leur attaque, Vinicius certes on sent qu'il a du feu dans les jambes mais il va quand même beaucoup s'empaler sur les défenseurs. Benzema, j'ai pas trouvé qu'il a fait un match exceptionnel et je voulais
je savais que faut que tu es au stade. Ah ouais, non parce que là alors mais là je peux te dire
mais
non
mais ce qui est fou c'est qu'aujourd'hui
respire. Non mais simplement quand t'es au stade, c'est ça le truc, c'est le problème de la télé. Quand t'es au stade et que tu vois tout ce qui fait 100 balles dans tous les appels et tout ça, tu dis mais il a tout compris.
Je voulais me faire un petit journal espagnol.
Les journaux espagnols aujourd'hui il a pas de passe décisive, il a pas de but.
Mais attends, il a une question,
Question au-delà de ça. C'était Ramos qui tire le pénalty. Alors je sais qu'il les tire tous cette saison, et moi je trouve que c'est quand même un petit désaveu pour des joueurs offensifs, notamment pour Benzema. Pourquoi c'est Ramos qui chargeait des pénaltys?
Parce qu'il les tire très bien et qu'il est capitaine.
Et parce qu'il veut les tirer, surtout.
Moi, je me souviens de Bruno Alves à l'époque à Porto. Il était défenseur central. Il tirait même les coups francs, le mec. Tellement il les frappait bien. Voilà.
Au Real, tu te rappelles vous vous rappelez tous, Fernando Hierro?
Bien sûr. Quelle classe, ce mec.
Les coups francs et les pénaltys.
Oui. Et les pénaltys. Mais simplement, Ramos. Mais je comprends ce que dit Anthony. C'est que, on peut dire, oui, c'est réservé un truc. Mais alors, Ramos, dans la hiérarchie l'an dernier, il était deuxième tireur derrière Ronaldo.
D'accord. Donc, au Média FC ce matin, c'est Pierre Dorian qui est latéral qui a tiré le pénalty. C'est
Jean-Pierre.
Comme ça qu'il se blesse. je comprends. Dis-moi,
mais ça, c'est quelque chose qui me paraît. À partir du moment où le mec les tire hyper bien, je vois pas pourquoi.
Et puis que c'est le capitaine et que c'est le leader de l'équipe.
Oui, je m'attendais après le départ de Ronaldo à ce que Benzema il s'impose, il devienne le patron de l'attaque et donc.
Ah, c'était le numéro 2.
C'est quand même le meilleur buteur du Real avec le meilleur passeur du Real. Hein. Ouais. 18 buts, 6 passes décisives. Donc oui, alors c'est vrai que les stats de Benzema, je crois que ça doit faire 9 pénaltys pour Ramos cette saison. T'imagines les stats qu'il aurait s'il tirait les pénaltys.
Ah, bah oui.
Mais bon, mais ça le dérange pas parce qu'il est pas obsédé par les stats Benzema. Donc ce qu'il veut c'est que ça marche bien et
c'est marqué
et Ramos et Ramos, il a pas peur du tout. Enfin, c'est-à-dire que le mec il a un tel sang-froid que tant que ça marche, on va pas changer.
Fred,
rien.
Je vais t'embêter pour revenir sur l'Atlético Madrid. Dis-moi la mentalité qu'on retrouvait dans cette équipe que j'aimais bien, tu sais, accrocheur via Simeone. Les deux anciens qui sont partis, Gabi et l'autre qui est parti à l'Atlético Bilbao, redonne-moi le nom.
Raúl Garcia, mais il est parti.
Ça fait un moment. Raúl Garcia et Gabi, mais il gardait un petit peu cette mentalité très accrocheur.
C'est vrai.
Que je trouvais exceptionnel. Est-ce que cette mentalité n'est pas un petit peu partie?
Alors, en fait, on a changé cette mentalité, en tout cas, des joueurs qui sont plutôt hargneux pour plus de qualité technique.
Oui.
Voilà. Donc, il y a peut-être un petit peu moins. Voilà, parce que c'est vrai que Raúl Garcia, bon, c'est vraiment du passé, mais Gabi, bon, il voulait faire de l'argent au Qatar, il est parti au Qatar, voilà. Donc, mais c'est vrai que c'était un capitaine, peut-être qu'il y a plus trop aujourd'hui. Godin, il est un petit peu sur la pente descendante. Donc, mais c'est-à-dire que cette hargne a été compensée par des joueurs de plus de qualité, comme Griezmann, comme Lemar. Voilà. Donc, on va pas enterrer l'Atlético.
Alors,
c'est un très bon Real aujourd'hui, mais c'est vrai, ouais, tu as raison. Gabi n'a pas été remplacé dans ce côté leadership.
Fred, merci d'avoir été avec nous.
Bah ravi, c'était un plaisir.
Merci Fred.
Et bravo à notre auditeur qui sait comment piquer Fred.
Merci, j'ai pas beaucoup de mérite.
Non mais sérieusement, par rapport à ça, je veux dire, je suis premier à reconnaître qu'en Benzema joue pas bien, mais aujourd'hui sans faire de passes décisives, sans mettre de but, tous les bégayés espagnols l'encensent parce que dans le jeu mais il fait ce qu'il veut quoi, il est heureux, il est bien et ça se voit à chaque fois qu'il touche la balle.
Bisous mon Fredo, merci d'avoir été avec nous.
Hein.
Victoire 3-1 du Real face à l'Atlético cet après-midi et demain le Barça jouera face à Bilbao. Dans quelques instants, David Dortolari sera avec nous parce qu'il y a eu des matchs de taré en Allemagne aussi, notamment un 3-3 entre Dortmund et Hoffenheim, le BVB, je sais pas comment on dit en allemand, qui menait 3-0 et qui finalement a lâché le point du match nul, et le Bayern pendant ce temps qui continue, qui revient au classement, ils reviennent à 5 points de Dortmund. À tout de suite.
RMC Football Show. L'Afterfoot, Nicolas Villas.
Avec Annie Bellarmia, Ludovic Obraniak, Anthony, notre after académicien, le sixième. 6 sur 7 pour l'instant. Non, c'est ça, non?
Il y en a un qui est reporté lundi. Mais
t'as 5 sur 7.
Si je suis plus au courant que toi, tu me le dis. Hein.
Oui, mais tu le l'es certainement. J'ai eu un petit passage à vide là pendant quelques jours, je te le cache pas. Il y avait également la Bundesliga cet après-midi, 21e journée de Bully, et un match de fou entre Dortmund et Hoffenheim, 3 partout, le Bayern qui s'impose 3-1 face à Schalke 04, et plus Gladbach, le favori de David Lortolari, qui a pris une raclée à domicile face au Hertha, 3-0, le Bayern qui revient à 5 points de Dortmund qui reste leader, et David Lortolari est avec nous. Bonsoir David.
Salut Allo Freunde, salut à tous, quelle façon de revenir. Gladbach, ils ont le droit de perdre aussi, ça arrive quand même.
Enfin là, ils ont le droit de gagner le championnat, ça va pas être pour cette année finalement David.
Alors,
8 points de retard sur la tête hein, quand même là.
Bah, le Bayern est très content ce soir et a gagné un peu de confiance supplémentaire en s'étant rapproché donc de 7 à 5 points de Dortmund avec les matchs un peu dingues dont tu as parlé à l'instant. Alors Dortmund, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se produire en ce moment de la saison puisque il y a ce 3-3 après avoir mené 3-0 ce soir à domicile contre Hoffenheim. Je vais y venir dans une seconde. Et puis, il y avait eu un autre 3-3 un peu plus tôt dans la semaine. Le match de coupe perdu finalement au tir au but contre le Werder Bremen. Un autre mini-traumatisme aussi. Dortmund, ça fait 3 matchs de suite que le club ouvre le score pour ne pas gagner à l'arrivée. Donc, il y a un petit problème de mental peut-être dans cette équipe. Alors, il manquait 3 personnes très importantes aujourd'hui à Dortmund. L'entraîneur Lucien Favre qui était grippé, qui n'était pas sur le banc, et c'était ses adjoints qui officiaient. Il est intervenu, dit-on, à la mi-temps, mais à la fin, finalement, ça a été une douche froide pour Dortmund qui avait la victoire en main et qui l'a laissé échapper dans le dernier quart d'heure. Avec d'ailleurs 2 buts d'Isaac Belfodil, pour ceux qui suivent la Ligue 1, c'est toujours sympa côté Hoffenheim de se rappeler que les anciens de Ligue 1 brillent à l'étranger. Il manquait aussi Marco Reus, le capitaine, qui est un joueur essentiel pour motiver aussi ses troupes. Et puis au milieu de terrain, Witsel n'avait pas à côté de lui le Danois Thomas Delaney, et ça s'est vu. Ces trois hommes-là ont beaucoup manqué aujourd'hui à Dortmund, et on a perdu 2 points sur le Bayern qui lui a réussi, malgré encore une fois un but encaissé, à l'emporter contre Schalke. Donc effectivement, l'écart s'est un peu réduit et la confiance est venue côté Bayern ce week-end.
Mais du coup, est-ce qu'il y a une inquiétude là avant le match de mercredi à Tottenham?
Oui, il y a une inquiétude parce que autant en attaque, il n'y a pas de souci. Sancho est revenu alors qu'il avait été, par exemple, alors qu'il avait été ménagé dans la semaine. Il a été brillant, comme il l'est très très souvent. Devant, on a des solutions de rechange. Par exemple, il y avait Philippe qui remplaçait Royce. Ça s'est bien passé aussi. Les inquiétudes, elles sont plus dans la capacité à tenir un résultat. Hein, ça fait, je le disais, j'insiste, 3 matchs de suite que Dortmund est devant au score et se fait finalement rattraper. Donc ça, c'est peut-être un petit problème de jeunesse, peut-être un petit problème de manque de taulier dans cette équipe, quoi. Et quand Roy c'est pas là, ça se voit.
C'est bizarre, hein, ce qui se passe avec Dortmund, hein. On avait l'impression, ils ont quand même encore un petit matelas d'avance, hein, sur le Bayern, hein. 5 points, c'est pas mal, c'est pas négligeable. Mais c'est vrai que là, 3 nuls de suite, tu vois, c'est...
En ayant mené 3-0, hein, je le répète ce soir. Ouais.
Ils sont peut-être tombés un peu dans la facilité en menant 3-0, mais ils auraient dû être prévenus parce qu'Offenheim est quand même coutumier du fait. C'est une équipe qui est réputée justement pour ses retours à chaque fois fantastiques, qui arrive à prendre 3 buts en une mi-temps pour en remettre 3 en l'espace d'une demi-heure. Donc tu peux être que prévenu par rapport. Et je pense qu'il y a un peu de, je sais pas, David, tu sens un peu aussi excès de confiance un petit peu, non?
Peut-être un peu d'usure aussi parce que cette équipe il y a aussi beaucoup d'euphorie. Ça fait, on le rappelle, ça fait 6 ans d'affilée que le Bayern était devant. Là, les réflexes changent complètement. Dortmund est dans la peau du chassé. Le Bayern n'est pas mécontent d'essayer maintenant de revenir et de faire le sprint final. Ils ont aussi des capacités pour ça. Il y a une comparaison que je veux faire très vite entre les deux équipes, c'est que en ce moment ça va bien offensivement des deux côtés. Dortmund continue d'être fort devant. Ils ont marqué encore 3 buts ce soir. Le Bayern lui aussi va bien devant, et c'est derrière que ça pêche un peu, dans la stabilité, dans l'équilibre d'équipe. Et il y a un parallèle vraiment entre ces deux équipes en ce moment. C'est intéressant de voir du coup cette espèce de mano à mano qu'il peut y avoir en championnat, parce qu'effectivement Nico, aujourd'hui le perdant c'est Gladbach qui a perdu 3-0 à domicile. Dommage, parce que Gladbach était sur le point de réussir
un
record.
Dommage, c'était mon favori pour le titre.
Non, mais c'est pas ça, mais ils étaient sur le point de faire 13 victoires consécutives à domicile. Ils restent à 12 et finalement l'ancien record est égalé. Dommage, mais bon, on peut pas être inspiré non plus tous les week-ends. Le grand gagnant d'aujourd'hui, c'est le Bayern.
David, de toute façon, pour rester dans le rythme du Bayern chaque saison, oui, à un moment ou à un autre, tu perds des plumes, surtout quand tu t'approches de la Champions League, de ces fameux matchs. Qu'on le veuille ou pas, même si tu vas forcer sur ton effectif à gagner toujours des matchs, c'est ce que font très bien le Borussia Dortmund.
Oui.
Avec l'approche de ce match face à Tottenham, tu as toujours des joueurs qui, dans les 20 dernières minutes, vont pas lever le pied, mais je veux dire faire moins d'efforts ou de contre-efforts. Et ça, l'adversaire le ressent, surtout en Allemagne.
Mais la question qui se pose derrière ça, surtout David, c'est est-ce qu'ils peuvent jouer sur tous les tableaux, Dortmund? Est-ce que c'est quoi l'objectif? C'est de faire un gros parcours en Champions ou d'être champion d'Allemagne, ou les deux d'ailleurs?
La Ligue des Champions, c'est le bonus. C'est pas pour rabaisser la compétition, évidemment, mais la Ligue des Champions, c'est le bonus parce que cette année, on veut pas manquer cette occasion en or de gagner le championnat. Mais la difficulté par rapport à ce que vous disiez à l'instant, c'est très vrai, c'est que il y a aussi beaucoup d'équipes cette saison, et on avait fait un avis tranché récemment dans l'after du lundi. Il y a beaucoup d'équipes cette saison en Bundesliga qui sont très 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 intéressantes. Wolfsburg rôde pas loin des places européennes, Francfort aussi on en parle, le RB Leipzig, Gladbach bien sûr,
le Hertha Berlin
qui s'est imposé
3-0
aujourd'hui. C'est compliqué de gagner tous les matchs en Bundesliga en ce moment.
Tu as raison aussi, David, Dortmund n'a plus l'habitude d'être dans la position d'être chassé, et comme ils voient l'écart réduire comme peau de chagrin, je pense qu'il y a aussi...
Est-ce que le risque, c'est pas qu'il commence à cogiter un petit peu? Parce que je pense qu'il y a toujours un petit complexe d'infériorité quand même par rapport au Bayern. Est-ce qu'ils vont pas commencer à avoir les jambes qui tremblent en les voyant se rapprocher?
Ça, ils vont y penser de toute façon, à cogiter quand ils se rapprochent du Bayern après un match, va vite.
Ce qu'on peut se demander, et c'est ce qu'on va te demander aussi, David, mais pour avoir les jambes qui tremblent, ça voudrait dire que le Bayern va mieux. Est-ce que le Bayern va vraiment mieux?
pas vraiment mieux.
Ah bah voilà.
C'est meilleur parce qu'on a retrouvé des solutions devant, parce qu'aujourd'hui la transition est carrément en cours, quoi. Que concrètement, il y avait au coup d'envoi, il y avait ni Robben ni Ribéry, mais Kingsley Coman a été assez brillant. Et de l'autre côté, Serge Gnabry aussi est en train de frapper fort aussi. Il a marqué deux buts en coupe cette semaine. Il marque encore aujourd'hui. Et au Bayern, on a des solutions offensives. Alors derrière, ça tangue encore, mais clairement, ça va mieux. Ça va pas vraiment mieux parce qu'on n'est pas aujourd'hui en position des rabouiller Liverpool, c'est une évidence, mais ça va mieux par rapport à ce qui se passait à l'automne. Donc oui, ça va être le et puis il y a un match, forcément un match charnière, messieurs, ça sera le Bayern Dortmund en championnat, qui peut permettre, et ça les dirigeants du Bayern s'en frottent les mains depuis des semaines, qui peut permettre de réduire encore l'écart évidemment entre le Bayern et Dortmund.
David, merci d'avoir été avec nous.
Salut, bonne soirée.
Bonne soirée pour la dernière analyse, David.
Tout à l'heure.
Salut David, c'est barré, s'en fout. Ouais. Je vous rappelle les résultats de Ligue 1 de ce soir, 24e journée. Le PSG s'est imposé 1-0 face à Bordeaux à 3 jours du match de Ligue des Champions face à Manchester United. Cavani, buteur de cette rencontre, a marqué, a tiré un penalty. Il s'est blessé, il est sorti sur blessure, très incertain pour le match de mardi face à Manchester United. Amiens a battu Caen 1-0, match très important pour le maintien. Et puis Strasbourg s'est incliné à domicile 2-1 face à Angers. Merci beaucoup Ludovic. Aubraniac, merci Ali Benarbia. Anthony, merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Ça s'est bien passé, c'était sympa.
Ouais, c'était nickel. J'ai pas envie de vous laisser, donc si on fait un truc après, moi je suis là.
Et ben moi je me casse.
Non. Voilà,
merci. Allez, bonne nuit. Merci en tout cas. Mais on bosse, nous, tu crois quoi? Ouais, tu fais quoi toi à l'heure? Tu vas où?
Demain je dors.
Bah voilà.
Bah il bosse.
Voilà. Merci Jérôme Thomas. Merci les équipes techniques et éditoriales. Gros bisous, à demain. Ciao, ciao.
RMC Football Show, l'After Foot.